Deuxième partie, Johannesburg. Je m'étais arrangé pour loger avec mon cousin, Garlic Mbekeni, dans le township de George Gauche. Quelques jours plus tard, Garlic m'a emmené voir un de nos meilleurs hommes à Johannesburg. Nous avons pris le train et nous sommes allés voir un agent immobilier dans Market Street, une rue bruyante et animée avec des trams bourrées de passagers, des vendeurs à chaque pas et le sentiment que l'abondance et la richesse attendaient au coin de la rue. Garlic et moi nous assîmes dans la salle d'attente de l'agence immobilière tandis qu'une jolie réceptionniste africaine nous annonçait à son patron. Elle nous fit bientôt entrer dans le bureau où l'on me présenta à un homme qui semblait proche de la trentaine, avec un visage agréable et intelligent, un teint assez clair et qui portait un costume croisé. Malgré son jeune âge, il me sembla avoir de l'expérience. Il s'appelait Walter Sisulu. Le nom de Sisulu devenait important, à la fois comme homme d'affaires et comme responsable local. Il représentait déjà une force dans la communauté. Il m'écouta très attentivement, lui expliquait mes difficultés à Fort Hare, mon ambition de devenir avocat et mon intention de m'inscrire à l'Université d'Afrique du Sud pour terminer ma licence par correspondance. Je négligeais de lui raconter les circonstances de mon arrivée à Johannesburg. Quand j'eus fini, il se renversa sur le dossier de sa chaise et réfléchit à ce que je venais de dire. Puis il me regarda une nouvelle fois et m'expliqua qu'il connaissait un avocat blanc, avec lequel il travaillait, du nom de Lazar Sidelski, qu'il considérait comme un homme convenable et progressiste. Sidelski, dit-il, s'intéressait à la formation des Africains. Il lui parlerait de moi pour savoir s'il pouvait m'engager comme stagiaire. Witkin, Sidelski et Edelman étaient un des plus grands cabinets d'avocats de la ville, et traitait des affaires de noirs et de blancs. En plus des études de droit et de certains examens, pour devenir avocat en Afrique du Sud, on devait passer plusieurs années de formation dans un cabinet, ce qu'on appelle un contrat de stagiaire. Mais pour devenir stagiaire, je devais d'abord avoir ma licence. Pour cela, j'étudiais le soir à l'UNISA, University of South Africa. Une institution respectée qui proposait des cours par correspondance. En plus des dossiers classiques, le cabinet Witkin, Sidelski et Heidelman contrôlait des transactions immobilières pour des Sud-Africains. C'était un cabinet dirigé par des Juifs, et d'après mon expérience, j'ai toujours trouvé que les Juifs avaient l'esprit plus ouvert que le reste des Blancs sur les questions raciales et politiques. Peut-être parce qu'eux-mêmes ont été victimes dans l'histoire de préjugés. Le fait que Lazar Sidelski, un des responsables du cabinet, engage un Africain, quelque chose qui n'existait pas à l'époque, était la preuve de ce libéralisme. Monsieur Sidelski, pour qui je finis par avoir le plus grand respect et qui me traitait avec énormément de gentillesse, s'occupait d'éducation pour les Africains, en consacrant de l'argent et du temps à des écoles africaines. C'était un homme mince et affable, avec un trait de moustache, et il prenait un intérêt véritable à mon bien-être et à mon avenir en insistant sur la valeur et l'importance de l'instruction. Pour moi, personnellement, et pour les Africains en général. Le jour de mon arrivée au cabinet, j'ai rencontré la plupart des autres employés, y compris un autre Africain, Gore Radebe, avec qui je partageais un bureau. Gore avait 10 ans de plus que moi, et il était employé, interprète et coursier. Petit, trapu et musclé, il parlait très bien l'anglais, le soto et le zoulou, autant de langues dans lesquelles il s'exprimait avec précision, humour et confiance. Il avait des opinions bien arrêtées et des arguments solides pour les étayer et c'était un personnage connu du Johannesburg noir. Le premier jour, une agréable jeune secrétaire blanche, Miss Lieberman, me prit à part et me dit « Nelson, il n'y a pas de barrière de couleur dans le cabinet ». Elle m'expliqua qu'en milieu de matinée, celui qui préparait le thé arrivait avec un plateau et un certain nombre de tasses. En l'honneur de votre arrivée, nous avons acheté 2 tasses neuves pour vous et pour Gore, dit-elle. Les secrétaires portent le thé aux avocats, mais vous et Gore, vous prendrez votre thé vous-même, comme nous. Je vous appellerai quand le thé arrivera et vous pourrez le prendre dans les tasses neuves. Je lui étais reconnaissant pour toutes ses attentions, mais je savais que les 2 tasses neuves qu'elle avait pris tant de soin à mentionner étaient la preuve de la barrière de couleur qui, d'après elle, n'existait pas. Les secrétaires partageaient peut-être le thé avec 2 Africains, mais pas les tasses pour le boire. Quand je répétais à Gore ce qu'avait dit Miss Lieberman, je remarquais que son expression changeait tandis qu'il m'écoutait. « Nelson, me dit-il, à l'heure du thé, ne t'inquiète pas, fais exactement comme moi. » À 11 heures, Miss Lieberman nous informa que le thé venait d'arriver. Devant les secrétaires et quelques membres du cabinet, Gore s'avança vers le plateau et de façon ostensible ignora les tasses neuves et en choisit 2 anciennes, puis il versa généreusement du sucre, du lait et du thé. Il resta là pour boire, apparemment très content de lui. Les secrétaires regardaient Gore avec de grands yeux et Gore me fit un signe de tête comme pour me dire « À ton tour, Nelson ». J'étais dans l'embarras. Je ne voulais pas choquer les secrétaires, ni laisser tomber mon nouveau collègue. Aussi ai-je décidé de faire ce qui me semblait le plus prudent. Je n'ai pas pris de thé. J'ai dit que je n'avais pas soif. Je n'avais que 23 ans, et je n'étais pas encore très sûr de moi comme homme, comme résident de Johannesburg, ni comme employé d'un cabinet d'avocats blancs, et j'ai trouvé que la voie médiane était la meilleure et la plus raisonnable. Les choses n'ont pas continué ainsi. Par la suite, à l'heure du thé, j'allais dans la petite cuisine du bureau et j'y prenais mon thé tout seul. Gore était vraiment un fauteur de troubles, au meilleur sens du terme, et c'était un homme influent dans la communauté africaine d'une façon que M. Sidelski ne soupçonnait même pas. Il appartenait au bureau consultatif du Western Native Township, un organisme de 4 membres élus qui traitait avec les autorités les questions relatives aux townships. Si le bureau avait peu de pouvoir, il avait un grand prestige. Et je découvris bientôt que Gore était aussi un membre éminent de l'ANC et du Parti communiste. Je n'étais pas le seul stagiaire du cabinet Witkin, Sidelski et Heidelman. Un garçon de mon âge, Nat Bregman, y entra peu après moi. Il était agréable, brillant et réfléchi. Il ne semblait absolument pas voir les différences de couleur et il devint mon premier ami blanc. Il avait des talents d'imitateur et savait imiter Jan Smuts, Franklin Roosevelt et Winston Churchill. J'ai souvent sollicité son aide sur des questions de droit et de procédure et il m'a toujours été d'une aide indéfectible. Un jour, à l'heure du déjeuner, nous étions assis dans le bureau et Nat a sorti des sandwichs. Il en a pris un et il m'a dit « Nelson, attrape l'autre bout ». Je ne savais pas bien pourquoi il me demandait ça, mais comme j'avais faim, j'ai obéi. « Maintenant, tire », a-t-il ajouté. J'ai tiré et le sandwich s'est déchiré en 2. « Maintenant, mange ». Comme je commençais à mâcher, Nat m'a dit « Nelson, ce que nous venons de faire symbolise la philosophie du Parti communiste. Partagez tout ce que nous avons. » Il m'a annoncé qu'il était membre du Parti communiste et il m'a expliqué les rudiments de ce que défendait ce parti. Je savais que Gore en était membre, mais il n'avait jamais essayé de me convertir. Ce jour-là, et dans beaucoup d'autres occasions, j'ai écouté Nat prêcher les vertus du communisme et essayer de me persuader de rejoindre le parti. Je l'écoutais, je lui posais des questions, mais je ne me suis pas inscrit. Je n'avais nulle envie de rejoindre une organisation politique quelconque. J'étais aussi très pieux, et l'hostilité du Parti communiste envers la religion me déroutait. Mais j'ai bien aimé ma moitié de sandwich. Nat m'invita à de nombreuses soirées où se trouvait un mélange de blancs, d'africains, d'indiens et de métis. Ces réunions étaient organisées par le parti et la plupart des invités en étaient membres. J'ai découvert un groupe de gens pleins d'entrain qui ne semblaient prêter aucune attention aux différences de couleur. Ce fut une des premières réunions mixtes auxquelles j'ai assisté. Et je me conduisis bien plus en observateur qu'en participant. J'étais extrêmement timide, inquiet de commettre une maladresse et tout à fait incapable de participer aux conversations rapides et de haut niveau. Mes idées me semblaient infantiles comparées aux conversations raffinées.